Il est 8h23 à Paris sur RFI. C'est l'heure de la revue de presse de Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette. Bonjour à tous.
Et une fois n'est pas coutume, ce matin, vous allez nous parler d'amour.
Oui, avec d'autant plus de plaisir que cette histoire d'amour fut bien l'événement éditorial de la presse hebdomadaire. Le magazine L'Obs a en effet publié les bonnes feuilles d'un livre de correspondance de François Mitterrand à Anne Pinjot, mère de sa fille Mazarine, toute de l'ancien président français. Ces lettres retracent 30 ans de liaison secrète, une correspondance amoureuse qui défie la raison politique, souligne L'Obs, réuni dans un livre intitulé « Lettres à Anne », signé donc François Mitterrand. Elle constitue l'un des deux livres de l'ancien président français publiés par l'éditeur Gallimard qui sortent dans 4 jours en librairie, jeudi prochain donc. L'autre s'intitulant « Journal pour Anne ». C'est bien sûr la destinataire de cette correspondance qui a fait le choix de la publier, précise L'Obs. Anne Pinjot a pour cela dû demander leur autorisation aux autres enfants de François Mitterrand, qui la lui ont accordé bien volontiers, comme le relate ce matin le journal du dimanche. La première lettre date du 1962, quand François Mitterrand, alors 46 ans, marié, 2 enfants, rencontre Anne Pinjot, qui, elle, avait 19 ans. Dans la dernière, en septembre 1995, François Mitterrand écrit à Anne Pinjot qu'elle aura été sa chance de vie. À l'origine, ce qui les a unis, c'est leur amour commun pour la littérature, souligne l'hebdomadaire. À la fin, ça n'est que la mort, celle du président, qui a désuni ces deux êtres. Reste que si Anne Pinjot ne fut pas la première dame, elle fut sans conteste son grand amour, et leur fille Mazarine, née en 1974, en témoigne également dans L'Obs. Une histoire d'amour. Nous sommes donc à Paris, qui est une fête, c'est bien connu.
Oui, ça c'est ce qu'écrivait Hemingway. Mais depuis Norbert, les avis sont partagés, et aux États-Unis, certaines stars pensent au contraire que Paris n'est plus à la fête.
Oui, et cette semaine, c'est un fait divers qui a mis à mal l'image de Paris, tant il a fait couler d'encre. Kim Kardashian a été détroussée de 9 millions d'euros. La vedette de la télé-réalité américaine gardera un horrible souvenir de son séjour dans la capitale française où elle était venue assister au défilé de mode, car 2 hommes masqués et déguisés en policiers se sont introduits dans son hôtel. Après l'avoir ligotée et lui avoir flanqué la peur de sa vie, ils l'ont en effet soulagé de ses bijoux et de ses effets. C'est ce que l'hebdomadaire Marianne, qui raconte ce braquage par le menu, appelle un larcin people. Mais me direz-vous, que vient faire dans la revue de presse de RFI cette histoire de bijoux volés? Eh bien, pour l'hebdomadaire Le Point, la réponse est toute trouvée. Car après avoir été entendu par la police, la starlette a décidé de partir rapidement de Paris en jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Or, en réagissant ainsi, Kim Kardashian rejoint le club des stars féminines américaines, déçue par la ville de l'amour, regrette Le Point. Paris est une fête, a effectivement écrit Ernest Hemingway. Eh bien, pour Rihanna, Natalie Portman, Courtney Love ou encore Scarlett Johansson, Paris n'est plus une fête, déplore cet hebdomadaire. Et ces stars déçues n'hésitent pas à le faire savoir par le biais de tweets rageurs ou d'interviews dans des talk-shows. C'est ainsi, le braquage de la bimbo n'est qu'un épisode supplémentaire à ajouter à la longue liste de faits divers commis à l'encontre de riches touristes internationaux, de quoi alimenter le French bashing, qui est l'art consommé de dénigrer les Français, explique Le Point.
Un statu quo persistant au Conseil de sécurité des Nations Unies hier, lors d'une réunion consacrée à la Syrie et plus précisément à la situation qui prévaut à Alep, la Russie oppose toujours son veto.
Oui, et l'Express s'en désole. Hein. Les démocraties ont des valeurs majeures, mais peu de gens sont prêts désormais à mourir pour les défendre, soupire l'hebdomadaire. Très concrètement, Américains et Européens ne veulent pas perdre leur vie pour défendre celle des hommes qui espèrent en la démocratie. Les Russes, selon l'Express, se sont alliés à un épouvantable dictateur syrien que les Américains n'ont voulu ni défendre ni attaquer. Pour ce magazine, ce syndrome d'Alep nous enseigne qu'il faut recouvrer la raison et hiérarchiser nos haines et renforcer les États laïcs.
Enfin Norbert, on parle beaucoup en cette rentrée de l'identité française. Et cette question, qu'est-ce qu'être français?
Oui, dans la perspective des élections primaires prévues pour désigner certains candidats à la présidentielle de l'an prochain, l'identité française agite en effet la rentrée politique, mais pas seulement. C'est aussi, et une fois encore, le thème de plusieurs livres de la rentrée littéraire. Entre partisans d'une France affirmant ses racines chrétiennes et blanches et chantres d'une France plurielle et cosmopolite, le débat reste vif, remarque le magazine littéraire, qui rappelle d'abord la définition du général de Gaulle, lequel écrivait « Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne ». Mais ce magazine cite ensuite l'ancien ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale, Éric Besson, lequel, pourtant rallié aux Congolistes, 50 ans plus tard, déclarait « La France n'est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion. C'est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France de métissage. » Fin de citation. Comme le souligne ce mensuel, entre ces deux déclarations, un gouffre d'une définition par les éléments constitutifs de la nation, à savoir le peuple, la langue et la culture, on est passé à une fondation du lien social construite sur le multiculturalisme. L'identité est devenue floue et quand écrivains et philosophes tentent de la redéfinir, c'est pour se retrouver dans des camps souvent irréconciliables. Être français, le magazine littéraire qui va bientôt fêter ses 50 ans tout de même, ouvre donc ce dossier en une d'un numéro essentiellement consacré aux meilleurs romans étrangers. Pour ce journal, manifestement, la vie commence à 50 ans.
C'était la revue de presse de Norbert Navarro sur Radio France Internationale.